France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et nous sommes le mardi 7 mai. Bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, coup d'accélérateur dans la campagne pour les européennes. Meeting hier soir à Caen, Marseille, Paris, dans la capitale. C'est l'écologie qui était au cœur du rassemblement de La République En Marche. On voit ça, Agnès, après les autres titres.
Les explications de Didier Lombard, très attendues aujourd'hui au procès France Télécom. Pas de rentrée hier au collège Paul-Éluard dans l'Essonne. Les habitants d'Istanbul devront revoter le 23 juin et puis le créateur des drôles de petites bêtes a exceptionnellement ouvert son atelier à France Inter.
Les invités d'Inter ce matin, bonjour Alexandra Ben Saïd.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
7h50.
C'est la tête de liste UDI aux européennes. Jean-Christophe Lagarde avec 3% d'intention de vote. Qu'apporte-t-il au camp des pro-européens, des idées ou de l'éparpillement? Rendez-vous à 7h50.
Et à 8h20, deux ans jour pour jour après l'élection d'Emmanuel Macron, l'exécutif promet un changement de méthode et le Premier ministre recevait hier les partenaires sociaux et les élus à Matignon pour débattre de l'emploi et de la transition écologique. On en parle tout à l'heure avec la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Elle est l'invitée du grand entretien et le standard est ouvert. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter. Une journée classée verte dans la campagne pour les européennes. Rapport de l'ONU sur la biodiversité, G7 environnement à Metz, écologie du quotidien à Matignon. La protection de la planète était hier dans tous les discours et au cœur du meeting du numéro 2 de la liste La République En Marche, Pascal Canfin, sur la scène du Théâtre Bobineau à Paris hier soir, soutenu par l'ex-eurodéputé écologiste Daniel Cohn-Bendit. Objectif, ne pas laisser le champ libre à Europe Écologie Les Verts. Reportage Fabien Randrianarissoa.
Je ne pense pas que l'écologie puisse être, doive être et soit le monopole d'un seul parti.
Le message est clair, le vert se décline en plusieurs tons. Une réponse à Yannick Jadot et à tous ceux qui accusent la liste Renaissance d'écologie de façade. Au-dessus du bilan de La République En Marche sur le climat, Pascal Canfin vante le Conseil de défense écologique.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement va passer en mode commando pour gagner la bataille du climat et du vivant. Et c'est exactement ce que le président de la République a annoncé dans les annonces du grand débat la semaine dernière. Et c'est exactement ce qu'il commence à faire, le changement d'échelle de notre action pour le vivant et la biodiversité.
Mais celui qui fera se lever la salle est assis au premier rang.
Dany, viens m'aider s'il te plaît.
Daniel Cohn-Bendit, ex-coprésident des Verts au Parlement européen, est venu avec un avertissement.
Nous avons des concurrents. Et c'est à eux que je dis ça. N'insultez pas l'avenir. Nous avons besoin d'une force commune écologiste pour justement arriver à cette transition écologiste dont nous rêvons, dont nous avons besoin.
Un appel au fair play pour ne pas gâcher l'opportunité de placer l'écologie au cœur du Parlement européen.
Un appel que Yannick Jadot, tête de liste Europe Écologie Les Verts, ne semble pas prêt à entendre. Un peu plus tôt dans la journée, il avait dénoncé le greenwashing, le ripollinage en vert de La République En Marche qui, je cite, « t'as l'impôt de yaourt se voulant vert mais dont les arômes seraient artificiels ». Concrètement, le rapport sur la biodiversité remis hier au chef de l'État a visiblement fait bouger quelques lignes. La plus emblématique, c'est le recul sur le projet d'ouverture d'une mine d'or en Guyane. Un projet qui, à l'heure actuelle, n'est pas compatible avec la protection de la biodiversité, a déclaré Emmanuel Macron, qui a annoncé un frein à l'artificialisation des sols, la lutte contre le gaspillage alimentaire et la réduction de moitié de l'utilisation de produits phytosanitaires d'ici 6 ans. Des mesures qui vont dans le bon sens, estime Yun Shin, l'une des auteurs du rapport et chercheuse à l'Institut de Recherche pour le Développement.
Ce sont des annonces assez concrètes sur beaucoup d'aspects que nous connaissons assez bien, en diminuant notre gaspillage alimentaire, nous citoyens français et européens, de moitié, on pourrait gagner 10 à 20% de terres au niveau mondial. Il y a des raisons d'avoir de l'espoir. Le changement de comportement de production et de consommation est extrêmement important. Bien sûr, ça doit être accompagné à des niveaux plus élevés, au niveau du secteur privé, au niveau des politiques et des décisionnaires. Donc ça se passe au niveau de la France, mais également au niveau européen, également au niveau international, avec le prochain rendez-vous extrêmement important de la COP15 de la biodiversité qui se passera en Chine l'année prochaine.
Propos recueillis par Célia Kiré, et puis c'était également soir de meeting hier. Nathalie Loiseau, chahutée par un petit groupe de gilets jaunes mais soutenue par Édouard Philippe, était à Caen. Le Premier ministre a appelé à rester calme et boire frais face au feu électoral, aux polémiques et aux petits sujets. François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains, était lui à Marseille. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30 et c'est déjà à lire sur franceinter.fr.
Il est 7h05, Agnès, très attendu aujourd'hui, le premier interrogatoire à la barre de Didier Lombard, l'ex-PDG de France Télécom.
Le procès pour harcèlement moral s'est ouvert hier devant le tribunal correctionnel de Paris, salle comble et déjà beaucoup d'émotions, mais les débats entrent dans le vif du sujet aujourd'hui, avec donc les premières explications de Didier Lombard. Sarah Guibaudot.
Didier Lombard se présente à la barre comme retraité, une retraite qui a fait couler beaucoup d'encre. Elle s'élève à quelque 350 000 euros par an. Mais l'ancien PDG s'est désormais retiré des conseils d'administration où il siégeait depuis son départ d'Orange en 2011, de ST Micro à Radial, la société de Pierre Gattaz, l'ancien patron du MEDEF. Comme quoi Didier Lombard, malgré la crise sociale au sein d'Orange, conservait des appuis ou une expertise recherchée dans les télécoms. Mais ce qui intéresse aujourd'hui Sébastien Crozier de la CFE-CGC d'Orange, c'est de savoir ce qu'il va répondre à la question sur ses revenus.
La lumière doit être faite sur la réalité de son patrimoine. La CFE-CGC considère que l'entreprise est le bien commun et c'est notre outil de travail. Les indemnités et le fonds d'indemnisation qui doit être créé pour indemniser les victimes doit être entièrement financé par la fortune des prévenus.
Pour les juges d'instruction, Didier Lombard a été le principal responsable de la mise sous pression de l'entreprise. Lui nie tout harcèlement moral. Les incitations au départ, une légende véhiculée par les tracts syndicaux, avait-il répondu, en invoquant aussi le contexte économique. Il va pouvoir commencer à s'en expliquer devant le tribunal.
La remise en liberté hier de 6 pompiers accusés de viol par une jeune étudiante norvégienne. En l'absence pour l'heure d'éléments suffisants, ils ont été placés sous le statut de témoins assistés. L'enquête se poursuit. Et puis 4 hommes ont écopé d'un an de prison ferme pour leur participation à l'incendie de la barrière de péage de Narbonne-Sud mi-décembre en marge d'une manifestation des Gilets jaunes. À 2 jours d'une nouvelle journée d'action dans les écoles, les collèges et les lycées, parents d'élèves et enseignants du collège Paul-Éluard de Vigneux-sur-Seine dans l'Essonne sont déjà mobilisés. La rentrée n'a pas eu lieu hier. Valentin Dunat.
Étrange sensation devant ce collège censé faire sa rentrée après 2 semaines de vacances. Seuls 3-4 élèves sont à l'intérieur, tous les autres à la maison. Maxime Pinel, maman d'un élève de 4e, a suivi la consigne de la FCPE. Son fils n'est pas allé en cours.
Parce que c'est l'avenir de nos enfants, c'est leur métier aussi qui est mis à mal pour les enseignants. C'est la sécurité dedans, dehors aussi du collège. Et je pense que dans toutes les villes, ça ne se passe pas comme ça. Donc tout le monde n'est pas loti de la même façon.
Dans ce collège classé en réseau d'éducation prioritaire, les élèves sont censés être 25 au maximum. Ils sont près d'une trentaine en ce moment. Et ça se bouscule dans les couloirs, comme nous l'explique Sébastien Lagarde, professeur de mathématiques.
Les premières conséquences sont des conséquences de sécurité qui sont dégradées, notamment dans les couloirs qui sont assez étroits. On remarque une augmentation du nombre de bousculades, des entorses qui peuvent être faites, des petits mouvements de foule donc dans les couloirs, ce qui est dangereux pour les élèves. L'impact aussi au niveau du nombre d'élèves par classe, donc on est souvent autour de 28-29, donc plus possible de prendre en charge les élèves de façon différenciée. Donc ces élèves-là en pâtissent énormément au niveau des apprentissages.
Les enseignants comme les parents d'élèves demandent donc une refondation de la carte scolaire, faire en sorte finalement que des élèves de Vigneux puissent se rendre à Montgeron, où là, les collèges ne sont pas saturés. À plus long terme, la solution serait, selon eux, la construction d'un troisième collège à Vigneux.
France Inter, il est 7h08. À l'étranger, les Stambouliotes vont devoir revoter.
L'autorité électorale turque a en effet annulé le scrutin de fin mars qui avait vu la victoire de l'opposant Ekrem İmamoğlu, une victoire à 13 000 voix près que le pouvoir a aussitôt contesté. Un nouveau vote est donc prévu le 23 juin. Un coup dur pour celui qui s'était déjà installé à la mairie d'Istanbul. Mais hier soir, il s'est montré particulièrement déterminé devant ses partisans. Un nom de l'heure est en Turquie pour France Inter.
Depuis que le Haut Conseil électoral a invalidé sa victoire, Ekrem İmamoğlu n'est plus le maire d'Istanbul. Mais alors qu'au sein de l'opposition, certains plaidaient pour un boycott en cas de nouvelle élection, le vainqueur du 31 mars est apparu déterminé devant des milliers de partisans qui réclamaient la démission des instances électorales.
En multipliant les contestations, ils se sont mis à faire pression et à menacer le Haut Conseil électoral. Et ce dernier a courbé l'échine. Je condamne le Haut Conseil électoral. Je le condamne.
Ekrem İmamoğlu n'a pas appelé ses partisans à manifester. Il les a appelés au sang-froid.
Nous n'abandonnerons jamais. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout de ce processus. Certains d'entre vous sont peut-être inquiets, certains sont peut-être désespérés. Essuyez vos larmes. Nous sommes ici et nous travaillerons tous ensemble.
Ekrem İmamoğlu le sait, la victoire ne sera pas facile. Mais s'il y parvient une fois de plus, ce sera un coup sévère dont le président turc Recep Tayyip Erdogan aura beaucoup de mal à se remettre. Anne Laure Istanbul, France Inter.
Le soulagement pour les deux journalistes de l'agence Reuters condamnés à 7 ans de prison en Birmanie pour une enquête sur le massacre de musulmans Rohingyas. Ils viennent d'être libérés après 500 jours derrière les barreaux.
Retour en France où plus de la moitié des médecins, Agnès, travaillent déjà en groupe.
La réforme de la santé prévoit la multiplication des maisons de santé, mais déjà, selon la direction de la statistique, 61% des généralistes exercent avec d'autres médecins ou des professions paramédicales. Une proportion en hausse continue. Elle a augmenté, Véronique Julia, de 7 points depuis 2010.
Le constat est encore plus vrai chez les jeunes. Aujourd'hui, 81% des généralistes de moins de 50 ans exercent en groupe. La plupart du temps, ils partagent leur cabinet avec d'autres généralistes. S'y ajoutent dans 5 à 30% des cas des infirmières, des kinés, des gynécologues, des psychiatres et même parfois des chirurgiens dentistes. Un regroupement inégal toutefois selon les régions. Les Pays de la Loire, par exemple, sont plus friands de ce partage que la région PACA. Si on se regroupe, c'est parce que les pratiques changent, la médecine s'est beaucoup spécialisée, complexifiée. Les praticiens ont davantage besoin d'échanger entre collègues et de prendre des décisions en équipe, de mutualiser un matériel aussi qui peut être onéreux. Les modes de vie plaident également pour le cabinet partagé. Les plus jeunes ne veulent plus travailler comme les anciens jusqu'à 70 heures par semaine. Exercer en groupe leur permet de poser des jours de congé et d'organiser des tours de garde. Un regroupement encouragé en tout cas par les pouvoirs publics. Depuis 10 ans, les maisons de santé pluridisciplinaires reçoivent des aides financières multiples. Et l'État d'ailleurs ne s'en cache pas, ces regroupements doivent devenir la règle. Pour la ministre de la Santé Agnès Buzyn, comme pour le chef de l'État Emmanuel Macron, l'exercice isolé doit devenir, je cite, l'exception d'ici 2022.
Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Loulou le pou, si vous avez des enfants dans votre entourage, vous n'avez pas pu échapper à ces drôles de petites bêtes. C'est l'œuvre d'Anton Krings, 19 millions d'albums vendus, 65 personnages créés en 20 ans. Le dessinateur et auteur de livres pour enfants est à l'honneur au musée des Arts Déco à Paris, mais pour France Inter, Mathieu Message a surtout eu la chance de découvrir son atelier.
Pénétrons dans l'arrière-cour d'un théâtre parisien, là au milieu des plantes se dresse une verrière, le jardin secret d'Anton Krings, le créateur des drôles de petites bêtes.
Tout simplement, ce lieu est mon refuge, où je puise dans mes souvenirs d'enfance, où je me retire du monde. On est en plein Paris, mais je me retire du monde. Et c'est très important pour moi d'avoir ce lieu, qui n'est pas le lieu où je vis.
Un atelier bien organisé, les crayons séparés des pinceaux, un peu plus loin des tubes de peinture. Sur la table, des dessins sont éclairés par la lumière de la verrière.
Ce sont des crayonnés qui sont pour ma prochaine histoire. Donc j'ai toujours le texte qui est là à proximité. Je dessine ici, je peins ici. J'alterne entre plusieurs tables les projets parce que je peux travailler sur plusieurs projets en même temps.
Notamment l'exposition proposée au Musée des Arts Décoratifs. Anton Krings y prête 350 gouaches originales. L'occasion de voir aussi ses inspirations, le naturaliste Buffon, l'écrivaine Béatrix Potter ou encore l'illustrateur Edward Lear. Une découverte pour les curieux de tous âges.
Mes premiers lecteurs ont une vingtaine d'années et quand ils me disent que quand ils seront en âge d'avoir des enfants, qu'ils leur achèteront des livres, je me dis « waouh, j'ai réussi un truc » parce que voilà, on passe d'une génération à l'autre.
L'œuvre d'Anton Krings est donc une promenade enchantée à parcourir en famille.
Et en attendant Nicolas Lecobra, l'exposition est à découvrir aux Arts Déco à Paris jusqu'au 8 septembre.
Merci Agnès Soubiran.